Bonjour tout le monde, un très bon milieu de semaine sous le soleil. J'espère que vous allez bien. On va discuter de cette quatrième vague d'entrée de jeu parce qu'on en parle de plus en plus. Hier, vous vous en souvenez, il y a des médecins, des experts, là, tout un groupe qui ont écrit publiquement, qui sont sortis publiquement pour dire qu'il faut absolument se préparer, avoir une espèce de vision de ce qui s'en vient. Là, on a l'impression qu'on a effectivement opté pour le ton de la victoire. C'est vrai que on peut dire que la gestion de la troisième vague par le gouvernement Legault s'est plutôt bien faite. On a été beaucoup dans le ton de « bravo tout le monde, a mis l'épaule et la roue, c'est parfait ». Mais là, on se rend compte finalement, et c'est l'OMS qui nous le dit, l'Organisation mondiale de la santé, qu'avec la contamination et le taux de propagation quand même toujours du virus sur la planète, ben finalement, ça serait pas 75 % 80 % qu'il nous faudrait de taux de vaccination. C'est beaucoup plus 90 % Ça, ça veut dire que s'il y a encore des jeunes qui refusent de se faire vacciner, des travailleurs de la santé, des préposés là, qui comprennent pas ou qui veulent pas, ou pour toutes sortes de raisons, là. Tout le monde peut avoir une raison. Certaines sont valables, certaines sont un peu plus douteuses. T'sais, ceux qui disent « bon, moi, je crois pas à ça ». Aujourd'hui, juin 21, tu dis « je crois pas à ça ». T'sais, on a de la misère. Si des gens ont des problèmes avec la vaccination comme telle parce qu'ils peuvent avoir des grandes réactions physiologiques, ça, c'est une autre chose. Si votre corps ne le permet pas pour toutes sortes de raisons, ben ça peut s'expliquer. On sait bien qu'on n'aura pas le 100 %. Mais là, on a l'impression qu'on a atteint un certain plateau et c'est ce qui inquiète les médecins, les experts, qui pressent d'ailleurs le gouvernement Legault d'utiliser des moyens pour lesquels, jusqu'à maintenant, on n'a à peu près pas bougé et on est vraiment en retard là-dessus. On pense, entre autres, aux tests rapides. Alors, on va en discuter aujourd'hui. Puis la question que je vais vous poser, là, on en parle de cette quatrième vague. On dit que ça va nous frapper cet automne. Si on ne se prépare pas, avez-vous l'impression qu'on se prépare? Et qu'est-ce qu'on devrait faire pour voir venir cette vague et pas la subir et ne pas être obligé d'être reconfiné? C'est ça qui est inquiétant, c'est que il faut qu'on se prépare maintenant pour pas avoir la surprise de l'année dernière. Parce que là, on aurait pu du tout l'espèce de justification de dire on savait pas trop que ça allait nous arriver. Là, on peut le prévoir. On va en discuter avec plusieurs invités. Je vais vous présenter tout de suite le docteur Richard Marchand. Il est microbiologiste infectiologue à l'Institut de cardiologie de Montréal. Bonjour, docteur Marchand.
Bonjour, Madame Maréchal.
Est-ce qu'on se prépare pour cette quatrième vague là, qui de plus en plus semble être une évidence pour des chercheurs et des médecins comme vous?
Est-ce qu'on se prépare? La réponse, c'est oui et non. Plus un non qu'un oui, à mon avis, ici, en ce qui nous concerne. Mais il faut d'abord comprendre là, ce que l'OMS nous dit à l'échelle de la planète. C'est un autobus dans lequel toute l'humanité est. Ce qui fait qu'on ne peut pas juste traiter une partie des gens dans l'autobus et d'oublier l'autre partie du monde dans le même autobus. Alors, l'OMS nous dit que quand il y a de la réplication du virus, il y a de plus en plus de probabilités de mutants résistants. Donc, ils nous disent à la vitesse où on vaccine les pays pauvres et certains pays comme l'Inde. Par exemple, l'Inde, je parlais à un collègue indien avant hier, il y a 940 millions d'Indiens qui sont même pas dans le collimateur de la vaccination du gouvernement. Le gouvernement, avec les ressources qu'il dispose, essaie de faire un plan pour 600 quelques millions d'Indiens, mais il y en a 940 millions qui sont même pas actuellement dans le collimateur à court ou à moyen terme. Puis là, si on va chercher tous ceux qu'on ne peut pas vacciner dans plusieurs régions du monde, comme en Afrique, comme en Amérique latine, comme en Amérique du Sud. Par exemple, à Kinshasa, qui est une grosse ville en Afrique, là, il manque d'électricité. L'électricité est disponible 6 heures par jour. Mmh. Même si on avait des aiguilles, des vaccins, tout ce qu'il faut.
Pour les frigos, c'est pas. Mais oui.
On n'a pas des frigos pendant une partie de la journée. Ce qui fait que, vous voyez, à l'échelle de la planète, là, on sait qu'on ne sera pas capable de vacciner tout notre monde avant plusieurs années. L'OMS nous parle de 2, 3, 4, 5, 6 ans et peut-être même plus. Ça, c'est une chose. Donc, la réplication du viral, et l'OMS nous dit en conséquence, préparez-vous parce qu'il y a une forte probabilité qu'au cours des prochains mois, prochaines années, il apparaisse des variants qui pourraient échapper au vaccin. Ça, c'est clair et net. Donc, puis de l'autre côté, ben, ce qu'on sait, c'est que plus les variants qui nous arrivent, plus ils sont infectieux. L'exemple, c'est le variant Delta là, d'origine indienne, qui est beaucoup plus infectieux. Plus il est infectieux, plus ça nous prend un seuil d'immunité collective élevé. Donc, à chaque mutation, là, on est passé de 75 à 80, 85, et là, on s'en va vers le 90 %. Sachant qu'il y aura toujours un noyau dur, peut-être de 10 à 15 % qui ne pourra pas se faire vacciner ou qui ne voudra pas se vacciner, il est probable, sinon presque certain, qu'on n'atteindra pas avant un an et demi, un niveau d'immunité collective qui va nous protéger. Ceci dit, la vaccination va au moins régler une chose, c'est que en rendant les gens moins malades, il n'y aura pas de débordement des hôpitaux, on ne sera pas submergé, donc les hôpitaux vont pouvoir reprendre leurs activités tranquillement, pas vite. Mais ce qui est prévisible, c'est écrit dans le ciel, c'est qu'au cours des prochains mois, même un an, deux ans, il y aura des éclosions ici et là. Une éclosion, par exemple, dans un groupe pas vacciné, ou une éclosion dans une école même où les gens auront été vaccinés, ou dans une usine. Donc, il y aura des éclosions à contrôler. Et ça nous prend, en plus de la vaccination, un plan au long cours pour résoudre nos problèmes qui vont apparaître tant qu'on n'aura pas réussi à faire un vaccin universel contre les variants, puis tant qu'on n'aura pas réussi à vacciner la planète. C'est ça que le groupe des signataires nous dit.
Est-ce qu'on a un plan B?
Ben, ça, il faudrait poser la question au gouvernement. S'il y en a un, il n'est pas actuellement mis en avant. Là. Il est, en tout cas, nous est pas annoncé. Et même la préparation de la quatrième vague. La quatrième vague, on dit l'automne, au retour peut-être, mais ça pourrait être n'importe où dans le courant de l'année prochaine aussi. On ne sait pas à quelle vitesse ça va arriver, mais la probabilité qu'il y ait un mutant variant qui soit en partie résistant au vaccin, le variant Delta est encore susceptible au vaccin, mais un peu moins. Et il est en Ontario. Mmh. Et regardez ce qui s'est passé, par exemple, en Angleterre. On n'ouvre pas actuellement le déconfinement jusqu'à la fin à cause de ce variant-là. Et c'est celui qui est en train de dominer chez nos voisins en Ontario.
Oui. Ce variant Delta, pouvez-vous nous en parler un petit peu plus, Dr Marchand? Qu'est-ce qu'on sait sur lui?
Ce qu'on sait, c'est qu'il est apparu en Inde en premier et qu'il est beaucoup plus infectieux par un facteur de presque 100. Donc, s'il est beaucoup plus infectieux comme tel, ça veut dire que le seuil pour l'immunité collective vient d'augmenter de façon significative avec ce variant-là. Mmh. Heureusement, il est pas très important au Québec, mais on va ouvrir la frontière entre le Québec et l'Ontario dans quelques jours. Il dit c'est comme écrit dans le ciel qu'il va finir par nous rattraper un jour ou l'autre.
Ouais. On sait que la vaccination, c'est considéré par les chercheurs et les experts comme le meilleur moyen de freiner la pandémie. C'est le plan A. On a mis pas mal tous nos œufs là-dessus, j'ai l'impression. Et là, vous venez de le dire, on n'a pas de plan B.
Bien, c'est un plan A essentiel. D'abord, il faut vacciner, ne serait-ce que pour protéger notre réseau de santé et permettre aux gens qui ont d'autres maladies que la COVID de se faire soigner. Ça, c'est très clair et c'est pour ça qu'il faut absolument vacciner notre population. Mais ça ne réglera pas tout. C'est ce que nous dit l'OMS et les scientifiques qui suivent de près l'évolution dans le temps, parce qu'ils nous disent que le virus se continue à se répliquer et va muter. Par exemple, on a vu la semaine dernière apparaître au Vietnam un variant qui est un mélange du variant indien et qui est un variant très plus infectieux, comme je viens de le dire, et d'un variant sud-africain qui, lui, est plus toxique et plus malade, nous rend plus malade encore. Donc, ça veut dire que plus il y a de gens qui sont malades sur la planète, plus il y a de chances de probabilité. Et là, on parle de probabilité élevée. Là. On ne parle pas, comme il y a un an ou deux, là, d'une probabilité en moins de 10 % d'une éclosion. On parle de probabilité à l'échelle de la planète d'éclosion à plus de 80 %. Là.
Mais c'est ça, c'est parce que, Dr Marchand, là, les chiffres changent un peu. Disons qu'il faut dire qu'on en apprend plus aussi. Puis le virus, pendant ce temps-là, fait ce qu'il y a à faire, c'est-à-dire qu'il mute et on fait face à de nouveaux variants plus virulents, comme vous venez de nous l'expliquer. Mais il n'y a pas si longtemps, on nous disait, bien, au Québec, on a besoin d'avoir 75% des 12 ans et plus de vaccinés. Là, on se rend compte que ce ne sera pas suffisant à cause, entre autres, du Delta et des autres, qui est tout près, dont l'Ontario. En même temps, on sait aussi que... est-ce que c'est vrai, je lisais, que la majorité des nouveaux cas de COVID, ce sont des personnes non vaccinées? Il y a comme une logique là-dedans, là. C'est inquiétant quand on lit ça. Là. On se dit, comment ça se fait? Comment convaincre les irréductibles?
Mais ça restera toujours. Il y a des gens qui qui n'y croient pas à la vaccination. Et il y en a toujours eu. Il y a eu ça dès l'arrivée des premiers vaccins, là, il y a plus d'un siècle. Fait que ça va toujours demeurer.
Mais c'est pas une religion, la vaccination. C'est pas une croyance.
C'est pas une religion, mais c'est quand même probablement la plus belle avancée de la médecine. Hein. Aujourd'hui, on ne voit plus de paralysie due à la polio, on ne voit plus pratiquement pas de décès de la rougeole. Dans les années 50-60, avant juste l'arrivée du vaccin de la rougeole, on perdait à l'époque entre 600 et 3000, on a des années là, de 2000 enfants morts de la rougeole. Et dans ce temps-là, on était moins de 3 millions au Québec, là, aux alentours de 3 millions et quelques. Vous voyez, on ne voit plus d'enfants mourir de la rougeole. Donc, la vaccination, c'est extraordinaire comme moyen de protection. Maintenant, quand on a affaire à une pandémie et un virus qui circule à l'échelle planétaire, il faut raisonner un peu comme si on était en guerre avec un virus. Mm. Et ce n'est pas juste un problème de santé. Regardez, on utilise une infrastructure lourde, qui est l'infrastructure hospitalière, pour faire du diagnostic et du suivi, à un point tel qu'on a de la misère à s'occuper de nos autres malades entre-temps.
Oui,
alors que tout se passe en dehors des hôpitaux. La transmission se fait en dehors des hôpitaux. Pourquoi pas?
Beaucoup dans les milieux de travail, d'ailleurs, encore aujourd'hui.
Tout à fait. Et c'est pour ça qu'il faut penser à des moyens pour combattre le virus en dehors des hôpitaux, c'est-à-dire au milieu de travail, faire un peu comme on prévoit faire, par exemple, du côté de nos amis suisses et autrichiens. Les enfants arrivent à l'école. S'il y a une éclosion dans l'école, on teste les enfants. Les enfants s'auto-testent le matin. Bang! Puis on fait ça pendant quelques jours jusqu'à temps que l'éclosion soit contrôlée. Et c'est probablement comme ça qu'on devra fonctionner après la quatrième vague, si elle a lieu, ou au cours d'une longue étendue quatrième vague, une fois que les gens seront vaccinés. Autrement dit, il faut planifier les deux, trois prochaines, quatre prochaines années, parce que l'OMS nous fait comprendre que ça va durer 3 ou 4 ans.
Oui, et on ne veut pas toujours être sous la menace d'un reconfinement, là, c'est sûr. Ou à la négociation à la petite semaine, là, genre, on peut-tu rajouter 1000 spectateurs pour un match de hockey? On peut-tu 1500? J'ai l'impression qu'on est en train de négocier au cas par cas. Je veux dire, ça ne peut pas être comme ça toutes les semaines. Ce que je comprends, vous allez rester avec nous, bien sûr, Dr Richard Marchand, microbiologiste infectiologue à l'Institut de cardio de Montréal. Ce que je retiens, c'est que vous dites qu'il faut se préparer avec des plans B, puis pas que simplement la vaccination, même si c'est très important la vaccination. Il faut encourager les gens qui n'ont pas encore reçu de première dose d'aller la prendre. Puis tous ceux qui peuvent avoir leur deuxième, allez-y aussi. Mais ça prend autre chose que la vaccination parce que sinon, la quatrième vague va être bien réelle. On va s'arrêter ici, très courte pause. On va également parler à quelqu'un là, qui est spécialisé en gestion de risque et qui va nous parler de ces fameux autotests rapides, ces tests rapides, là, où véritablement, on s'en est parlé, vous et moi, plusieurs fois au cours de la dernière année. Ça se fait dans d'autres pays. Ça se fait d'ailleurs à l'Institut de cardio. Docteur Marchand pourra nous revenir là-dessus. Mais pourquoi on n'a pas encore accès à ces tests rapides qui soulageraient tellement, qui rassureraient, qui sont sécuritaires et peu coûteux, comme le disent tous les experts? À tout de suite, tout le monde. Bien sûr, notre question et nos téléphones. 514-790-9850. 1-866-790-9850. C'est pour nous joindre. Dites-moi, d'après vous, qu'est-ce qu'on devrait faire pour bien se préparer? On parle d'une quatrième vague. Est-ce qu'il faut la craindre? À tout de suite. Oui, bien, c'est sûr, il y a des gens qui disent, hey, là, chez nous, que la quatrième vague, là, on est encore dans la troisième. C'est sûr que c'est pas réjouissant, puis c'est pas forcément des sujets hop la vie, mais en même temps, je pense qu'il faut regarder les choses. Oui, on en profite. On est en train de déconfiner, donc c'est tout à fait positif. En même temps, le fait de s'obliger à avoir un peu de vision et faire de la prévention, je pense que c'est juste être conscient, c'est juste être réaliste et c'est juste être un bon praticien que de vouloir faire ça. C'est vraiment pas notre question ce matin, c'est vraiment pas pour vous faire suer tout le monde, c'est vraiment pour essayer de poser des questions à ceux qui sont là puis de s'assurer que les bonnes décisions soient prises. Je pense que quand tout un groupe d'experts dit il faut craindre une quatrième vague parce que on vit pas sur une île nous au Québec et vous avez entendu le docteur Richard Marchand Il y a des centaines de millions d'Indiens qui n'ont pas de vaccin, les Africains, les Sud-Américains. Je veux dire, on est très chanceux, nous, d'avoir toutes ces débats, ces discussions autour de la vaccination. Je lisais un article, d'ailleurs, cette semaine, où on parlait du fait que même le lavage de mains et l'accès à des désinfectants sont des discussions qui touchent les pays riches, parce que dans les pays pauvres, ils ont même pas ça, ils n'ont même pas d'eau. Fait qu'imaginez se laver les mains. Donc, nous, on a comme une obligation, étant donné qu'on est privilégié, il faut se le dire. Mon Dieu qu'on est privilégié. Je veux dire, juste au niveau de nos politiques démocratiques, là, regardez, alors, je veux juste vous rassurer, c'est pas pour faire peur au monde, pas ça. On brandit pas l'épouvantail ce matin. On dit, on a-tu un plan B? On est-tu bien préparé? Parce que la dernière affaire qu'on veut, c'est revivre ce qu'on a vécu. Fait que je pense que là-dessus, on va tous être d'accord. On a des gens qui veulent intervenir. 514-790-9850. On a Jean-Claude qui est avec nous. Bonjour.
Bonjour, Isabelle. Je suis très, très désolé de savoir que tu t'en vas parce que j'aime beaucoup ton émission.
Merci.
Moi, un propos, puis après ça, j'ai une suggestion. C'est parce que le gouvernement, de la façon que ça fonctionne, ils nous mettent un peu dans l'ambiguïté. Tu sais, c'est un peu Serge Belair avec qui dit vrai. Parce que, ben, en tout cas, les plus vieux s'en souviendront. Tu sais, ils veulent qu'il y ait plus de monde dans le forum pour le CH. Mm-hmm. Je veux dire, j'ai rien contre ceux-là qui jouent au hockey puis qui aiment ça, le hockey, là. J'ai rien contre ça. Mais si on est pour avoir une quatrième vague puis que ça va durer encore 2 ou 3 ans, ben pourquoi qu'on ne les prend pas drastiquement les mesures tout de suite au lieu d'étirer ça ad vitam aeternam? Mm-hmm. À un moment donné, c'est parce que plus tu étires la sauce, plus tu as de chance de la gâcher.
Ouais.
Ça, c'est mon point de vue.
Et votre suggestion, rapidement, Jean-Claude?
Ma suggestion, rapidement, écoutez, ça va coûter excessivement cher ceux qui ne se font pas vacciner. C'est ceux qui tombent malades. Mm. Bon, bien, qui donnent un crédit d'impôt au deuxième vaccin.
Ouais.
Le premier, tu n'as pas de crédit, mais au deuxième vaccin, tu as un crédit d'impôt.
Ah ben oui, là, on cherche...
Ils vont vacciner.
Ben oui, merci Jean-Claude. Il y a toutes sortes d'idées là, qui sortent, des beignes, des billets de spectacle, toutes sortes d'affaires pour inciter les plus jeunes à aller se faire vacciner, ceux qui n'ont pas eu encore leur première dose. On a Carole au bout du fil. Bonjour, Carole.
Ça va bien?
Oui.
Bon, moi, mon mari, sa deuxième dose, c'est le 11 août.
Oui.
Et puis, ma fille a essayé sur Internet depuis jeudi passé.
Puis vous n'y arrivez pas?
Non, ça marche pas. Fait qu'un matin, j'ai décidé d'appeler au 1-877.
Oui.
Mm-hmm. Ils nous ont dit, parce qu'on n'a pas de courriel ni de cellulaire, ils peuvent pas devancer son rendez-vous. Je dis, ben voyons donc. Moi, j'ai été vaccinée à ma pharmacie à 30 secondes de chez nous.
Oui.
Ils ont même appelé pour laisser un message. J'étais le 23 août, puis je suis le 21 juin qui s'en vient, là.
Et votre conjoint, quel âge a-t-il?
Il a 67 ans.
Donc, normalement, il devrait être en mesure de devancer sa dose. Là.
Ça ne marche pas parce qu'on n'a pas de courriel ni de cellulaire.
Et vous ne connaissez personne là, qui peut vous permettre d'aller vous brancher quelque part?
Ma fille, elle essaye depuis jeudi passé, puis ça ne marche pas.
C'est très étonnant parce que, sincèrement, je vous avoue que moi-même, je l'ai fait, puis ça a très bien marché. Je pense que la plupart des gens y arrivent. Des fois, c'est un problème... d'ordinateur, j'ai l'impression, ou de maîtrise de tout ça. Je suis sûre que vous pouvez vous faire aider. Je ne sais pas si le docteur Marchand qui est avec nous a une suggestion. Merci, Carole. Il y a des gens, là, effectivement, qui disent qu'ils ont des problèmes à se brancher. Pas tout le monde qui est technologiquement au même point. Donc, c'est sûr qu'il y a des gens qui ont moins accès là, à Internet.
Il n'y a pas juste un problème de technologie. Il y a des sites de vaccination qui ont plus de problèmes que d'autres.
En plus,
ma conjointe essaye depuis 2 jours, elle aussi,
de se
brancher, mais ça ne marche pas. Et ce n'est pas parce qu'il n'y a pas d'ordinateur à la maison qui sont top-notch. Là.
Mmh.
Donc, effectivement, ça dépend des sites, ça dépend des endroits. Et ce n'est pas toujours facile de le faire, et je peux comprendre ça.
Mais oui.
Moi, je reviens, par exemple, à votre...
À Jean-Claude?
Quand il parlait du CH... Prenez, par exemple, le spectacle qui a été fait en Espagne, à Barcelone. Il y avait 5 000 personnes. On les a tous testés avant de rentrer dans la salle avec des tests antigéniques. Il y a eu 3 cas à la suite de cette 5 000 personnes-là, dont 2, on a prouvé par la suite qu'ils ne l'avaient pas acquis durant le spectacle. Donc, avec un test antigénique ici, On a géré le risque. Il n'était pas zéro, mais il était rendu à un niveau gérable et on a permis de reprendre des activités.
Mais voilà, puis ça, c'est peut-être une façon aussi de convaincre peut-être les plus jeunes d'aller se faire vacciner. Et si tu finis par dire aux gens, écoute, tant que tu n'auras pas tes vaccins, tu ne pourras pas vivre comme les autres, tu vas être obligé d'être un peu en retrait de la normalité, même si ce n'est pas agréable à entendre, peut-être que c'est ça la solution. Qu'est-ce que vous en pensez, Dr Marchand?
Ça va être extrêmement important chez les jeunes ados, parce que quand on est ado, on a besoin du groupe, on a besoin de s'identifier aux autres, on a besoin de ça de façon intense. Et un adolescent ou un jeune de 12-13 ans qui se ferait interdire par ses parents, par exemple, de se faire vacciner, peut se faire ostraciser du restant du groupe. Ça, pour certains, ça risque d'être traumatisant,
ouais.
C'est clair. Et ici, là, les jeunes ont déjà des problèmes de santé mentale, de stress, de tout ce que vous voulez. La pandémie les affecte de façon intense.
Ah, ouais,
et actuellement, on peut voir comment c'est mitigé ou contrôlé ou le risque est géré selon les pays. Je vous donnais tout à l'heure l'exemple de l'Autriche où les étudiants se testent. Ben, les étudiants d'équivalent de secondaire 5 ont eu leur bal. Chacun, on se testait le matin ou l'après-midi avant le bal. Puis on est allé au bal. OK, ça a fait que certains qui étaient positifs n'ont pas pu y aller. Mais l'ensemble, la majorité, ont leur vie.
Et vous êtes un partisan de ces tests, Dr Marchand. Vous les avez implantés d'ailleurs à l'Institut de cardio. Racontez-nous encore comment ça fonctionne.
L'Institut de cardio est un hôpital qui avait le mandat de rester froid de la COVID, c'est-à-dire de ne pas s'occuper des cas de COVID pour pouvoir opérer les cas d'urgence qui pourraient déborder des autres hôpitaux au niveau cardiaque. Là. Donc, nous, on roule à 110 pour ça de notre capacité depuis un an et quelques, on n'a jamais arrêté. Mais on avait des éclosions dans le personnel à répétition parce qu'ils ne l'attrapaient pas à partir des patients, puisqu'on n'en avait pas de patients qui avaient la COVID. Ils étaient tous testés, mais c'était des gens qui l'attrapaient en communauté, ça, des fois en allant faire l'épicerie ou en faisant des activités comme ça. Et là, on s'est rendu compte qu'il y avait un lien aussi avec la bulle familiale. Des fois, c'est l'enfant qui l'amène de l'école et qui est asymptomatique. Ce qui fait qu'en introduisant les tests rapides, on a d'abord fait du dépistage systématique pour découvrir qu'effectivement, il y avait des porteurs asymptomatiques. Et après ça, on a étendu les tests rapides à l'autodépistage, c'est-à-dire que les gens apprennent à s'autodépister. C'est pas plus compliqué que d'ajuster le pH de l'eau de votre piscine si vous en avez une. Et les gens ont très rapidement étendu ça à la bulle familiale, ce qui fait que les parents qui ont des enfants d'âge scolaire, par exemple, quand ça fait 4 ou 5 fois que le petit morveux morve, puis là, vous allez attendre pendant une demi-journée pour le tester, puis là, vous le gardez à la maison pendant 2 jours avant d'avoir le résultat pour vous faire dire qu'il n'y a rien, mais la 5e ou la 6e fois, là, vous avez moins le goût d'y aller le faire tester.
Mais surtout que dans les écoles, on disait même s'il y a un test négatif, tu ne peux pas tout de suite retourner à l'école là, pendant les mois de la pandémie. Là, s'il fallait quand même attendre la fin de l'espèce de
quarantaine.
De quarantaine. Dans les milieux de travail, ça a beaucoup paralysé. Là.
Ben, dans certains établissements, certains hôpitaux, ça fait qu'il y avait jusqu'à 25% du personnel qui était absent à la maison à s'occuper des enfants en attendant des retours de tests ou des fins de quarantaine.
Alors que ce serait si simple.
Alors que depuis ce temps-là, nous, les gens testent leurs enfants. Et là, on nous disait, ben le test, s'il n'est pas sensible, peut le manquer. Mais il y a un problème. Il y avait une donnée statistique qui était très claire. C'est quand on teste la bulle familiale, si on teste tout le monde, puis que tout le monde a l'équivalent d'un rhume, puis qu'aucun est positif, mais on sait que c'est pas la COVID. Puis si on teste toute la famille, puis il y en a un seul qui est positif, ben on sait que tout l'autre, même si notre test n'est pas sensible. Donc, en testant la bulle familiale, on augmentait la valeur prédictive du test à presque 100%. Et depuis ce temps-là, nous n'avons plus, plusieurs établissements vont dire ont plus d'éclosion aussi avec les vaccins et tout ça. Mais la réalité, c'est que ça permet aux parents de régler le problème. Ils peuvent tester le petit avant d'aller le porter à garderie parce que ça fait une semaine qu'il morve à cause des allergies.
Oui, voilà, exactement. On va s'arrêter ici, Dr Marchand. Merci d'être là. Vous restez avec nous. On va justement parler à un spécialiste de ces tests après la pause. Restez là, tout le monde. On revient tout de suite après. Juste un petit mot là, sur le commentaire tout à l'heure. Carole qui nous disait qu'elle avait de la misère là, à pouvoir avoir une deuxième dose, un rendez-vous devancé pour son conjoint de 67 ans dans sa région à Montréal. Il y a beaucoup de gens là, qui me disent effectivement qu'ils ont eu des problèmes Il y a Qatar qui me dit qu'elle essaie de prendre rendez-vous depuis hier, puis il n'y a aucune plage de proposer dans son secteur. Ça, c'est normal, ça arrive. S'il n'y a pas de plage, c'est qu'il n'y a pas de vaccin disponible. Comme nous le disait le Dr Marchand, il y a des endroits où c'est plus compliqué qu'ailleurs, mais réessayez quand même. Et comme le disait, je pense, le ministre de la Santé, Christian Dubé, là, qui disait, les gens qui n'ont pas de cellulaire ou pas d'accès à Internet, allez à un centre de vaccination, expliquez votre situation, ils vont régler votre problème, ils vont vous aider, là. Je pense pas que on va vous laisser entre les deux craques, vraiment. Là, c'est vraiment important là, de ne pas se décourager là-dessus. On va tout de suite vous présenter Alexandre Triquet. Il est président de Trident. Trident est spécialisé en conseil et gestion des risques en ce qui concerne les problématiques biologiques et chimiques. On s'est parlé au cours de la dernière année et demie. Monsieur Triquet, bonjour.
Bonjour, Mme Richard. On
s'était parlé des fameux tests, les tests rapides. Vous nous aviez dit, bon, vous en distribuez d'ailleurs ailleurs qu'au Québec, parce que ailleurs qu'au Québec, on a compris l'importance de l'utilisation de cet outil fabuleux qu'est le test rapide qui permettrait aux gens même de s'auto-tester, ce que nous disait le Dr Marchand. On a fait quelques suivis avec vous au fil de la pandémie pour voir, là, on vous a promis de regarder ça, de les implanter. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui que le gouvernement du Québec, qu'est-ce qu'on vous dit sur l'utilisation bientôt de ces tests rapides chez nous?
Bien, à la base, on n'est pas des distributeurs. On est, comme vous avez bien dit, on est plutôt des gestionnaires de risques en appui justement à certains gouvernements. C'est qu'on aide à amener des solutions. Les tests rapides, oui. C'en est une parmi d'autres. Les tests rapides en ce moment sur la planète, selon l'OMS, selon différents pays, mais c'est une des avenues qui est très importante, car la vaccination, on le sait, elle n'arrivera pas à 100% ou à 90% dans la population à une bonne vitesse. C'est ça, on appelle ça le plan A, la vaccination. Mais en gestion de risque, il y a une différence entre, pour comprendre prendre les mots, la gestion de crise et la gestion de risque, bien, au Québec, au Canada, certains pays, on vit plus une gestion de crise. La gestion de risque, ça serait d'avoir différents plans. C'est que au Québec, que ce soit au fédéral, dernièrement, ils ont lancé les tests gratuits, ils ont donné la possibilité aux entreprises de les lancer, mais il n'y a pas de promotion qui est faite là-dessus, car on croit toujours en une seule avenue, qui est la vaccination. Puis pour nous, c'est le risque. Le risque, c'est massivement, c'est d'être capable d'aller déconfiner, de ne pas réutiliser des moyens qui sont drastiques pour le futur. Fait que les tests rapides, c'est une des bases là, pour nous en gestion de risque.
Oui. Rappelez-nous comment ils se font, parce que des fois, les mots nous compliquent la vie. Pour expliquer ça, là, pour que tout le monde comprenne bien, il y a deux types de tests, monsieur Triquet. Expliquez-nous, là. Il y a le fameux test antigénique. Qu'est-ce que c'est que ce test-là?
Bon, dans la boîte à outils qu'on appelle très bien dans notre monde, la boîte à outils inclut différents types. Des tests, puis là, je vais rester très...
Oui, on aime ça, la boîte à outils, on comprend.
Bon, la boîte à outils, il y a des tests qu'on voit les anticorps, premièrement. Les tests d'anticorps, c'est eux qui nous disent si on a eu la maladie. Okay. Ça, c'est la première des choses. C'est eux qui nous disent si, en ce moment, vous avez eu le COVID, est-ce qu'on devrait vous vacciner une fois ou deux fois? Selon l'OMS, en ce moment, selon plusieurs pays... Si on vous passe un test, exemple, sérologique rapide, on va vous dire, ben vous avez eu la maladie, vous avez des anticorps, donc une seule dose de vaccin serait suffisante. D'ailleurs, deux doses seraient potentiellement dangereuses selon plusieurs paliers gouvernementaux. Ça, c'est les tests sérologiques. Les deuxièmes tests...
Ça, avec une goutte de sang, hein?
Sur le bout du doigt, en 10 minutes. Ça, c'est le test, justement, qu'on a essayé de rentrer à Santé Canada depuis le mois de juillet l'année passée, puis qu'on n'a pratiquement pas eu de retour. Puis en ce moment, ça n'a pas été une avenue là, du gouvernement fédéral et des gouvernements provinciaux, mais à part certains là, dans certaines provinces. C'est la petite goutte au bout du sang, au bout du doigt. Puis en l'espace de 10 minutes, on est capable de vous dire à 99% si vous avez eu la maladie ou si vous l'avez présenté des symptômes dans les 5 jours. Ça, c'est les tests sérologiques, tests d'anticorps.
Ça dit aussi si vous êtes porteur ou si vous l'avez eu dans les 5 jours, vous dites?
Bien, ça dit, exemple, après les symptômes, si, mettons, vous avez eu les premiers symptômes, dans les 5 jours, on est capable, parce qu'il y a deux types d'anticorps. Il y a des anticorps qu'on appelle les anticorps IgM, qui sont des anticorps non spécifiques, qui sont des anticorps, les premiers anticorps, là, que quand on reçoit la maladie, si on veut vulgariser un peu, puis ça, c'est des médecins qui sont bien instruits là-dedans, la première chose, c'est comme un soldat qui s'en va comme... pour découvrir l'ennemi, il n'est pas au courant quel est l'ennemi, puis il va sécréter ce type d'anticorps-là. Ensuite, l'anticorps va se transformer. puis va devenir un anticorps qu'on appelle spécifique, les IgG. Ça, c'est les anticorps en ce moment. Puis là, le docteur Marchand pourra peut-être corroborer ce que je dis, ou affirmer dans le sens que l'anticorps IgG, mais ça va être lui qui va s'en aller, puis qui va être libéré aussi par le vaccin en ce moment. Puis c'est l'anticorps qui va commencer à détruire le virus. Ça fait que ça, c'est après, on les obtient dans les à peu près 14 jours ensuite après la transmission. Ça fait que les premiers anticorps, c'est dans les 0,5 jours qu'on peut les voir, puis les autres, mais c'est après 14 jours. C'est là qu'on peut vous dire vous avez eu la maladie dans le passé. Mm-hmm.
OK. Et donc, le fameux test là, qu'on utiliserait régulièrement, qui permettrait aux gens de savoir, c'est le test salivaire ou de toucher buccal ou même dans
le... Deux choses. Ouais. C'est que le premier test que je viens de vous parler, l'anticorps, il est quand même nécessaire parce que selon nous, ce qu'on fait, c'est que quand on fait un premier test à quelqu'un, ben, ouais. Premièrement, s'il y a eu la maladie, il n'y a pas besoin ensuite de se refaire retester par la suite, normalement. Ça, ouais. C'est une des choses. Ça, on parle d'une économie majeure au niveau financier, mais pas seulement au niveau financier, mais au niveau aussi effort, parce qu'on parle de vaccination, c'est que quelqu'un qui a des anticorps ou il a la maladie, est-ce qu'on le préconise pour le vaccin? Est-ce qu'on le préconise pour le faire tester? C'est des coûts, c'est du temps, c'est de l'opération. C'est ça qu'on appelle encore de la gestion de risque.
Ouais.
Pour répondre à votre question, mais le deuxième test, l'antitest antigénique, mais ça, c'est le test qu'on est capable, dans les 0 à 4 jours des symptômes, de détecter les gens. Puis il faut comprendre une chose qui est très importante encore en gestion de risque. On veut détecter les infectieux et non pas les infectés. Ça, c'est ce qu'on dirait que le monde a de la misère à comprendre. Quelqu'un qui a le virus n'est pas obligatoirement quelqu'un qui va le transmettre. C'est que nous, dans les tests antigéniques, ce qu'on sait, puis ce qui a été prouvé, puisque l'OMS dit, le CDC, la FDA, à peu près toutes les organisations mondiales, l'OPCW, nous, au CBRN, on sait une chose, c'est que la propagation est vraiment causée par un des personnes qui représente un pourcentage des infectés asymptomatiques, puis l'autre, ben c'est les super propagateurs
ouais.
que vous avez sûrement entendu.
Ben oui.
Fait que ces tests antigéniques-là, ben à un pourcentage, si on les fait régulièrement, la différence, c'est qu'ils ne sont pas faites une fois par semaine, parce qu'il y a beaucoup de monde qui ont préconisé dans des recherches ici de les faire aux 7-8 jours, mais aux 7-8 jours, ça donne rien. Aux 2 jours, par contre, c'est là qu'on vient, comme le docteur Marchand disait tantôt, à 100% de la détection. C'est que si on testerait les gens, ben on empêcherait les infectieux d'être dans la population. Puis du moins, c'est jamais un risque zéro, mais on en réduirait une très grande part.
Et ce genre de test-là pourrait très bien être ceux qu'on donne aux voyageurs, par exemple, qui rentrent ou qui sortent du pays, là.
Ben exactement, parce que de 0 à 4 jours, on est capable de, quand on vous teste à la part, au départ de l'avion, à l'arrivée de l'avion, puis 3 jours après, ben si on est capable de rester avec ces tests-là qui sont ultra simples, a priori, là, c'est important aussi de le dire, c'est des tests où ce que c'est pas nasopharyngé, donc c'est des tests que le bout de la salive, on se met le petit tube dans la bouche, comme Dr Marchand disait, c'est pas plus compliqué que faire un test de pH de piscine. Un enfant de 5 ans qui a hâte de le faire, d'ailleurs, nous, on le fait à plusieurs personnes, puis à chaque fois que les gens ont on leur présente le test, on leur demande de se le faire eux-mêmes, puis la suite, elle est extrême. Comme Dr Marchand expliquait, ils ont fait un sondage en interne, puis ils se sont rendus compte que tous les employés, ben ils adoraient, c'est un grand mot, là, mais le principe de se faire le test n'était pas dérangeant, il était facile d'utilisation. Puis même dans certaines familles, on le voit à travers l'Europe, c'est un jeu pour la famille de le faire le matin, c'est que ouais. C'est la petite fille qui décide de le prendre, de faire le test à papa, à maman, puis ensuite de ça, ben on s'en va avec un certificat maison signé à l'école, puis on est capable de diminuer le risque.
Ouais. Certificat maison, ça aurait l'air de...
Ben un certificat maison, c'est tout simplement, c'est que faut se fier quand même au bon jugement et au gros bon sens des gens. Comprenez qu'on n'est pas tous des psychopathes que quand ils apprennent qu'ils ont le positif en dedans d'eux, ben on a le goût d'aller le donner à tout le monde. C'est, puis je crois personnellement en gestion de risque, de ce qu'on voit, c'est quelqu'un qui obtient un diagnostic. Ben je veux dire, une orientation de diagnostic, c'est très important là-dedans parce que ce ne sont pas des tests qui donnent des diagnostics, mais des tests pour orienter vers un test PCR qui est un test de diagnostic. Vous comprenez la différence?
Ouais.
C'est très important pour le gouvernement. Puis la question est qu'une personne n'ira pas dans la population vouloir infecter les gens. Ça fait que ça, on le sait. Puis comme on va faire l'allusion, je l'ai eu souvent, le feu rouge n'est pas fait pour 1%, il est fait pour la masse. Ça fait qu'on n'enlève pas tous les feux rouges partout.
C'est sûr que ce qui vient de donner des arguments à votre proposition là, d'implanter les tests rapides au Québec, il y a eu cette étude là, de l'Institut de recherche du Centre universitaire de santé McGill là, hier qui disait que pour les travailleurs essentiels sur leur lieu de travail. Puis on voit ce matin là, qu'il y a beaucoup de travailleurs de la santé qui disaient « Nous, on est un peu tannés des tests aux trois jours. » Donc, ce dépistage à l'aide de prélèvements de salive, ce serait efficace, ce serait sûr, ce serait acceptable et ce serait aussi peu coûteux. Là.
Peu coûteux. Puis comme vous dites, bien, c'est efficace. On l'a prouvé. Vous savez, à l'Institut de cardiologie, comme Dr Marchand l'a dit, il y a eu zéro cas à l'interne. Ça fait qu'il y a zéro cas depuis le mois de décembre. Il y a eu des félicitations qui ont été données par la santé publique à ce sujet. On a entendu, puis on a eu des échanges comme quoi que ça aurait dû être élargi à l'ensemble du gouvernement. Puis quand on parle de coûts, ben des tests comme ça, pour nous, c'est des tests là parce qu'on a accès à différents à travers le monde. On ne vend pas de tests, mais on est en première ligne. Ces tests-là coûtent entre 2 $ et ça a baissé quand même beaucoup parce qu'il y a eu des productions mondiales qui se sont ajoutées, mais entre 2 $ et 7 $. Puis, comme que vous avez dit, l'important, c'est quand on s'auto-teste ou la préposée qu'on met à la charge, mettons, pour une école ou quelque chose comme ça, bien, ça ne doit pas être une infirmière. Puis là, on tombe encore dans la loi qui dit qu'une infirmière doit absolument passer un test de salive ou de superviser le test pour une personne, c'est aberrant, là, ça se peut pas. En France, on en vient d'en acheter 150 millions pour les écoles.
150 millions pour les écoles françaises?
Mais oui, nous, on est avec l'Institut Pasteur, puis justement, comme j'expliquais sur le CBRN, il y a eu un appel d'offres total, puis encore là, l'Angleterre, elle, dans environ, ça, je pense qu'on en avait parlé, il y a 3 mois, ils en ont acheté 150 millions. Là, on va tomber dans des problèmes de production, là, mais la réalité, c'est qu'ils en ont commandé 150 millions à des organisations pour pouvoir en donner 2 par semaine à tous les citoyens. Ça fait que quand on regardait, comme je vous expliquais tantôt, si on se teste à toutes les 2 jours, 3 jours, ça fait 2 à 3 tests maximum par semaine, le risque il est carrément nul. Ça fait qu'après ça, de pouvoir propager le virus.
Qu'est-ce que vous pensez? On va aller à la pause, mais hier, je lisais qu'il y avait une porte-parole du ministère de la Santé et des Services sociaux qui se faisait poser des questions là-dessus par rapport à l'étude que je viens de vous nommer là, de l'Institut de recherche de Centre universitaire de santé McGill, puis qui disait, ben avec la vaccination en cours et le nombre de cas en baisse, il semble moins indiqué de lancer de nouvelles initiatives de dépistage.
C'est un petit peu comme de ne pas mettre de masque parce qu'on pense que les masques ne seront pas nécessaires si jamais ça arrive.
Mais on dirait qu'il y a comme... Tu sais, je disais tout à l'heure, là, la vaccination, c'est pas une croyance. Là. C'est pas « oh moi, je crois pas à ça ». Mais en même temps, on dirait que parfois, à la santé publique, on accroche sur certaines choses. Il n'y a pas si longtemps, le docteur Horacio Arruda jugeait qu'il y aurait possiblement une recrudescence de COVID à l'automne, mais que ça serait peu probable au Québec. J'ai l'impression que... C'est comme se mettre un masque devant les yeux et pas devant la bouche.
C'est la balance entre l'équilibre social et sûrement la santé publique. Ils ont un grand pouvoir qui est quand même difficile à gérer. C'est sûr que c'est pas facile, mais quand on parle en gestion de risque, encore, je reviens toujours avec une allusion militaire un peu, c'est qu'il faut préparer les attaques sur le flanc gauche puis sur le flanc droit parce qu'une attaque, puis c'est fini. Puis là, en ce moment, la réalité, c'est que les entreprises, surtout, je vais parler d'entreprises, puis je vais parler, quand on parle d'entreprise, on va parler d'employés, on va parler de toute la suite qui vient, qui déferle à la suite d'une entreprise. Ben, c'est le confinement, c'est l'économie, c'est des gens qui perdent leur emploi, c'est après ça des taux de suicide qui augmentent. Tout ça fait qu'on ne peut pas utiliser seulement 2 moyens, qui est un moyen qu'on appelle le confinement, puis 2, la vaccination, en se fermant les yeux. Sûrement, puis on espère avoir tort, parce que si on a tort pour nos groupes autour de nous, ben tant mieux, la pandémie est terminée, mais est-ce que vous croyez vraiment que la pandémie est terminée? Ça, c'est la question.
Est-ce que réponse, d'après vous?
Bien, à date, si on regarde ce qu'on voit à l'extérieur, à l'international, parce que nous, comme je vous disais, on parle beaucoup à différents paliers, ben non. Malheureusement, c'est pas terminé. Ça va être moins dangereux. Mais encore là, tant qu'on n'aura pas vacciné la population à l'international, les pays du tiers-monde, c'est des vagues, c'est des déferlements qu'on va recevoir de variants. Les variants, possiblement, vont être moins forts, mais la réalité, c'est que ça en prend juste un. Ouais. C'est surtout le stress dans une population de recommencer toujours avec des moyens. C'est qu'il faut travailler des moyens pour pouvoir vivre avec le virus en prévenant. C'est que si jamais on a un problème, ben au moins on a une solution. C'est pas juste on réagit quand que ça arrive. Merci. Là, comme les masques, les moyens de transmission aérien, les écoles.
Et les fameux tests rapides. Alexandre Triquet, président de Trident, merci beaucoup pour toutes ces précisions. On s'arrête ici.
Oui, mais pourquoi? Remettre à demain.
Et une petite nouvelle vite de dernière heure qui va mettre tout le monde de bonne humeur. Félix Auger-Aliassime qui vient de gagner contre Roger Federer, son idole de jeunesse. C'est formidable. Bravo, Félix. Bravo. On va essayer de parler à quelqu'un tout à l'heure vers 11h05. J'enchaîne avec le docteur Richard Marchand, microbiologiste infectiologue à l'Institut de cardio de Montréal. Une précision, docteur Marchand, parce que là, mon invité a soulevé l'inquiétude chez certains auditeurs en disant, par exemple, que il y avait des études là, qui semblaient démontrer, puis peut-être même l'OMS, là, juste nous préciser ça. Si les gens ont déjà eu la COVID et qu'ils ont une deuxième dose, est-ce dangereux?
Ben, la notion de danger, c'est qu'il y en a effectivement, les premiers qui avaient rapporté ça, c'était les Français et les Britanniques, oui, qui ont démontré effectivement que si vous avez eu la COVID, que vous êtes vacciné, vous avez un effet booster, mais qu'il y en avait un certain pourcentage à une deuxième dose qui faisait des effets là, de fatigue intense, de maux de tête. En fait, moi, j'ai un collègue qui a fait la COVID et à sa deuxième dose de vaccin, a été sur le carreau pendant 3-4 jours, effectivement. On a aussi des employés qui avaient eu une deuxième dose. Donc, les recommandations à l'international, c'est que si vous avez fait la COVID, une seule dose de vaccin, c'est ça qu'il faut, puis la deuxième n'est pas nécessaire parce que ça augmente pas vos anticorps, puis ça augmente le taux d'effets secondaires.
OK, bon. Alors, ce qu'on comprend en tout cas, c'est que c'est qu'il faut pas que la vaccination, il faut la vaccination, oui, pour avoir ce taux de 90 %. 90 %, là, c'est quasiment tout le monde, incluant les enfants, là, docteur Marchand.
C'est ce que les nouveaux variants nous amènent, nous rapprochent tranquillement, pas vite, effectivement. Mais ce n'est pas aussi que les tests rapides, là. Hein, se préparer, c'est aussi toucher à la ventilation des bâtiments, c'est un paquet de choses, se préparer à vivre avec le virus pour les deux, trois prochaines années.
Une belle boîte à outils. Merci beaucoup, ça nous a beaucoup éclairé ce matin. On s'arrête ici, les nouvelles, et on se retrouve tout de suite après.